Alors aujourd'hui, on va parler du malaise des hôpitaux. Vous avez sûrement vu les infirmiers manifester hier, mais il n'y a pas qu'eux qui ont des galères dans leur taf. Il y a aussi les aides-soignants, les personnels administratifs, les mecs qui nettoient, il y a aussi les internes en médecine qui font des horaires pas possibles. Beaucoup de gens se plaignent de pas être assez nombreux pour bien faire leur travail, de pas être assez nombreux pour pouvoir prendre une pause à midi et d'être de plus en plus stressés dans leur boulot. Et face à ce malaise et à ces conditions de travail qui, du point de vue de tout le monde, se détériorent, que répond la ministre?
Il y a eu 10 milliards d'euros de plus l'année prochaine, 1,5 milliard d'euros de plus pour l'hôpital. Il y a des postes en plus. Contrairement à la perception, et je sais que cette perception existe, des soignants, il y a 31 000 soignants de plus à l'hôpital.
Bon bah alors, est-ce que ce sentiment d'être en sous-effectif et tout ce malaise qu'il y a à l'hôpital, c'est vraiment qu'une question de perception? Mais d'abord, faut savoir que la ministre, elle ment pas. C'est vrai qu'il y a eu plus de moyens donnés à l'hôpital et des créations de postes, même chez les personnels soignants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces créations de postes et cette augmentation de moyens, ils sont insuffisants par rapport à l'augmentation de la demande de soins. Parce que dans les pays développés, avec l'augmentation du coût des médicaments, avec la technicisation des traitements médicaux et surtout avec le vieillissement de la population, bah chaque année, il faut plus d'argent pour que tout le monde se soigne. Et si l'enveloppe qu'on donne à l'hôpital et à toute la santé publique est insuffisante pour faire face à cette augmentation de la demande, et ben alors, qui va trinquer le personnel? Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a un sociologue qui montre que, Pierru, il s'appelle, c'est dans des articles de Mediapart, donc vous connaissez, et il montre que, spontanément, un peu comme ça, naturellement, en ce moment, dans nos sociétés, la demande de santé croît de 4% par an. Et l'enveloppe qu'on alloue aux hôpitaux et à l'assurance maladie en général, ça s'appelle l'ONDAM, ça augmente simplement de 2 ou moins de 2% par an. Et c'est ce décalage entre les 4% d'augmentation de demande spontanée et les 2% qu'on donne effectivement aux hôpitaux, c'est ce décalage qui fait que le personnel il a la gorge étranglée. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir la corde au cou? Ça veut dire subir plein de réformes de management, de comment se passe le travail dans un hôpital. Alors il y a plein de trucs qui se sont passés depuis 20 ans, on a commencé à comparer les performances entre les services et à dire attention, si vous n'êtes pas aussi performant que le voisin, on vous donne moins d'argent l'année prochaine, donc les mecs sont vraiment pressés. Et il y a même beaucoup d'établissements où on a supprimé des équipes de remplacement et ça fait que dès que quelqu'un est malade, on appelle un type qui était en congé, donc au lieu de se reposer, il revient au taf, on imagine tout le stress en plus. Et toutes ces réformes là sur 20 ans de management, ça a déjà permis de gagner 15% de productivité entre 2003 et 2009. C'est l'INSEE qui le dit. Mais toute cette productivité sur le dos de qui elle se fait? Elle se fait sur le dos des personnels qui finissent par ne plus en pouvoir. Imaginez-vous qu'il y a des gens, l'absentéisme il explose. Les gens ne vont plus au travail tellement c'est stressant. Et il y a FO, là, le syndicat, qui a fait une étude pour mesurer et comparer l'absentéisme en 2008 et l'absentéisme en 2011. Et rien que la différence des absents en plus, ça correspond à 10 000 postes équivalents temps plein. C'est-à-dire qu'en 2011, il manquait 10 000 postes, les mecs étaient chez eux. Et donc on voit que ça touche pas n'importe qui, ces conditions insupportables. Ça touche les personnels soignants, les mecs qui doivent nous accueillir quand nous on est dans la merde, quand tu te pètes la jambe, quand t'es en détresse, quand ça va très très mal, tu vas à l'hôpital public. Et les mecs qui sont censés t'accueillir, ils sont pressés comme des citrons, ils viennent plus au boulot et même maintenant avec les suicides, ils commencent à se buter. C'est ça la politique du gouvernement. Et pour quelle raison on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les budgets de la santé à la hauteur de nos besoins? Là, faut regarder ce que nous dit l'inspection générale des affaires sociales. Dans un rapport sur l'hôpital de 2012, elle dit bien que l'enveloppe globale qu'on donne à tous les établissements de l'assurance maladie, elle n'est pas déterminée en regardant les besoins précis de toutes les équipes soignantes ou les besoins des patients. Non. Elle est regardée surtout en ayant en tête les finances publiques. C'est-à-dire que les députés et le gouvernement, quand ils choisissent les budgets de toute la santé publique, ils pensent surtout à résorber le déficit de la sécu. Et donc Marisol Touraine là, en 2015, quand elle annonce encore 22 000 suppressions de postes pour encore tirer sur la corde des salariés, elle va droit dans le mur. Ça a assez duré les suppressions de postes, il est grand temps qu'on repense notre politique de santé, donc solidarité totale avec les copains infirmiers et à bientôt les amis.
Voilà, c'était une petite vidéo d'un collectif qui s'appelle Osons Causer et qu'on peut trouver sur le site de la CGT du CHU de Toulouse, donc qui a récupéré cette vidéo-là, qui plante un peu le décor. On pourra regretter que dans le monde de ce collectif, il n'y ait que des mecs et des hommes, apparemment. Mais on a au téléphone une femme, Pauline, de la CGT du CHU, pour nous parler un peu de ce qui se passe plus précisément à Toulouse. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et voilà, donc ça c'était pour planter le décor. La ministre Marisol Touraine se vantait dernièrement d'avoir résorbé le trou de la Sécu, et c'était formidable. Mais c'était notamment grâce à un plan à Toulouse qui s'appelle le plan Avenir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce plan Avenir ?
Alors le plan Avenir, c'est tout simplement, ils ont rien inventé, on a envie de dire, hein. C'est la déclinaison des plans d'austérité au niveau national, donc au niveau local, hein, du CHU de Toulouse. Je vais vous épargner ce que signifie chaque lettre du mot Avenir, entre améliorer, valoriser, etc., etc. En vérité, ce plan, c'est quoi ? C'est 200 suppressions de postes au CHU horizon 2018, 60 suppressions de lits, privatisation de multiples fonctions qu'on appelle support, hein, comme le brancardage, le bio-nettoyage, la stérilisation des instruments, etc., etc. C'est évidemment accompagné de tout un nombre d'attaques assez impressionnants contre les conditions de travail des agents qui sont déjà largement dégradés. C'est quoi ça ? C'est concrètement supprimer des jours de repos, empêcher les agents de prendre leur congé, leur faire des plannings où une semaine par mois, ils savent qu'ils travailleront, mais ils ne savent pas à quelle heure ils travailleront. On leur annoncera la veille pour le lendemain. Donc voilà, ce plan Avenir, c'est faire encore plus d'économies, supprimer des postes, alors que l'activité du CHU de Toulouse, tout comme là, c'était dit dans la vidéo au niveau national, cette activité, elle augmente, et particulièrement dans une ville comme Toulouse, où il y a environ 10 000 nouveaux habitants chaque année. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que l'hôpital de Toulouse est l'hôpital qui a le plus développé et construit de nouveaux bâtiments, de nouveaux services ces dernières années, qu'elle plus réorganisé en fait. Donc là, concrètement, on nous explique très tranquillement que nos conditions de travail sont dégradées, mais qu'elles vont l'être encore plus dans les mois à venir.
Et alors, ce plan Avenir a été mis en place l'été dernier, c'est ça, il me semble, c'est
assez... Alors, il a été soumis et validé par la direction générale et pas, bien évidemment, par nos organisations syndicales et les instances représentatives du personnel. Hein. Personne d'entre nous n'a validé ça. Donc, il a été annoncé au mois de juillet, le 12 juillet, si je me trompe pas. Donc, voilà. Donc, nous, on est quand même très, très inquiets parce que faut savoir que ça tombe à un moment, en plus, c'est là qu'on voit qu'ils sont prêts à assumer jusqu'au bout. Ils l'ont annoncé après qu'il y ait eu 4 suicides.
Ouais, c'est ça, en pleine vague de suicides.
En 18 jours, quand même. Ouais. Quoi. C'est ça qui s'est passé entre le mois de juin et le mois de juillet, dont le premier suicide, un agent s'est suicidé sur son lieu de travail, avec une expertise l'a bien montré, hein, une grande responsabilité de ses conditions de travail dans son suicide. La direction, qu'est-ce qu'elle fait face à ça ? Elle annonce un nouveau plan d'austérité et en interne de l'hôpital, comment elle communique sur ses suicides, elle dit que, alors certes, peut-être que le travail a une petite part de responsabilité, mais qu'il ne faut surtout pas oublier qu'un suicide, ça a généralement des origines multifactorielles et qu'en gros, cet agent n'allait pas bien. Et quant aux 3 autres qui ne se sont pas suicidés sur le lieu de travail, elle a balayé d'un revers de main la responsabilité de l'hôpital dans leur suicide.
Oui, parce que le travail, finalement, c'est pas une si grande partie de la vie.
C'est ça, surtout quand on travaille à l'hôpital. Mais ouais. Le problème, c'est qu'on leur expliquait ça, c'est que quand on travaille 3 week-ends sur 4, quand on a des horaires qui changent en permanence et qu'on a une vie familiale, effectivement, ça peut avoir un léger impact, on va dire, sur la vie familiale, sur les relations qu'on peut avoir avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, et que effectivement, des conditions de travail très très dégradées entraînent forcément des conséquences sur la vie privée. Aujourd'hui, la plupart des agents vous disent que leur vie privée, elle n'existe plus. Parce qu'on vous appelle à 19h pour vous dire, en fait, demain, tu ne travailles pas à 6h30, tu travailles à 13h, ou alors l'inverse. En fait, demain, tu devais pas travailler, mais finalement, tu vas travailler. Ou alors, on arrive au travail à 6h30, on est censé finir à 14h, et puis on nous dit, en fait, ton collègue de cet après-midi, il est pas là, donc tu vas devoir rester jusqu'à 21h. Et ça, c'est pas des événements qui sont rares. Ça, c'est des événements qui sont quotidiens pour les soignants. Quand vous allez travailler, vous savez comment, quand vous commencez, vous savez pas quand vous allez terminer, vous savez pas combien vous allez être. Et je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui au CHU à Toulouse, mais dans plein d'autres hôpitaux, ces derniers temps, avec l'arrivée des épidémies de grippe, etc., etc., on voit qu'il y a des plans blancs qui se déclenchent dans tous les sens pour des événements qui sont pourtant classiques et attendus. Hein. Je veux dire, la grippe, c'est quand même chaque année. On n'est pas surpris. Ça montre bien le sous-effectif que subit aujourd'hui l'hôpital. Et ça, c'est vraiment dramatique, et pour le personnel et pour les patients.
Alors, on avait reçu au mois de novembre, notamment donc Julien Terrier qui était venu, et puis Christine du pôle femme-mère-couple, qui était alors en grève illimitée, notamment pour protester contre ses conditions de travail, parce que c'est ce que tu dis, hein, c'est un vrai système de gestion du personnel là, qui se met en place comme ça. Et du coup, elle nous décrivait un peu ça, et elles étaient en grève illimitée à l'époque pour demander des postes en plus. Ça faisait un mois, c'était au mois de novembre, on n'en a pas reparlé ici. Est-ce que tu as des nouvelles de cette grève-là ?
Et tout à fait, et ça a été une victoire, hein, ce qui est suffisamment rare en ce moment pour le souligner. Donc juste pour rappel, hein, c'était le service de la consultation gynéco qui reçoit en fait toutes les femmes qui doivent pratiquer une intervention chirurgicale, toutes les femmes qui doivent avoir une IVG, et toutes les femmes qui viennent consulter l'anesthésiste avant leur accouchement. Et ce service, en fait, il y a un an, elles étaient 4 infirmières et 4 aides-soignantes, ils les avaient passées à 3 et 3, et là, sur les 6 agents restants, il y en a 3 qui étaient en arrêt maladie, dont 2 pour burn-out, et qui n'étaient pas remplacées. Donc les filles demandaient un retour à l'effectif auquel elles étaient auparavant, une reconnaissance de leur maladie professionnelle et accident de travail, la possibilité pour celles qui le souhaitaient de pouvoir travailler à 80% pour pouvoir s'occuper de leur vie privée. Donc c'est une grève qui a été assez dure parce que c'est un tout petit service, mais la direction y a été à marche forcée. C'est-à-dire que ils ont refusé de négocier au début. Ensuite, ils les ont reçus, mais pour leur expliquer que non seulement il n'y allait pas avoir d'augmentation du nombre de postes, mais qu'au contraire, ils allaient encore diminuer ces postes-là. Et comme c'est un service de consultation et pas de soins, ils étaient en difficulté, la direction, parce qu'ils ne pouvaient pas les assigner, c'est-à-dire les réquisitionner, les forcer à venir travailler, comme ça peut se passer dans la plupart des services à l'hôpital. Mais ils ont quand même essayé, c'est-à-dire que des filles qui travaillent depuis 30 ans à l'hôpital, qui aiment leur métier, qui le font bien, elles ont vu les huissiers débarquer chez elles le matin quand même, pour leur ordonner d'aller travailler.
Chez elles, à leur domicile.
À leur domicile, ouais. Tout à fait. Un huissier à 8 heures du matin qui sonne. Faut savoir qu'un huissier, c'est entre 1 500 et 2 000 euros pour l'hôpital. Donc,
voilà, il y a de l'argent.
C'est intéressant de voir où est-ce qu'ils mettent l'argent. Et la direction, sous la pression des filles, sous la pression de leurs collègues des autres services et la mobilisation notamment de collectifs féministes, elles ont gagné. Voilà, la direction a lâché sur quasiment tout, y compris... excusez-moi, on me parle en même temps. La direction a lâché sur quasiment tout et on est en discussion sur la maladie professionnelle et l'accident de travail. Mais du coup, c'est une victoire qui est importante parce que, certes, un petit service, comme je le disais, mais ça montre quand même à l'ensemble des agents qui, pour l'instant, sont un peu la tête sous l'eau parce qu'ils en prennent plein la gueule, que quand on se bat et quand on se bat ensemble, on peut gagner.
Et du coup, alors ça c'était au mois de novembre. Au mois de novembre, il y a eu aussi 2 manifestations qui ont réuni pas mal de monde dans les rues de Toulouse. Suite à ça, il y avait un communiqué de la CGT qui parlait du CHU qui rentrait en résistance, non seulement avec les personnels, mais aussi avec les usagers. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ces manifestations ? Comment on en est où ? Il y a eu une grève au service radiologie, une grève chez Logipharma.
Alors, il y a beaucoup depuis la fin du mois de novembre, il y a quand même... pas mal de mobilisation, plusieurs services qui sont rentrés en grève. Hein. Il y a eu le digestif, Logipharma, et effectivement la grève de la radio qui est toujours en cours. Voilà, une grève D'accord. de l'ensemble du pôle imagerie du CHU de Toulouse qui représente environ 300 agents qui sont en grève parce que à nouveau on leur a annoncé des suppressions de postes que la direction refuse de reconnaître la difficulté de leurs conditions de travail, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes. C'est-à-dire que les femmes enceintes continuent à travailler comme si de rien n'était. Il y a eu des fausses couches quand même, hein. Ça a été loin, ça a été grave. Donc le pôle d'imagerie est en grève maintenant depuis plus d'un mois et ils ont entamé fin décembre ce qu'on appelle une grève administrative. C'est-à-dire qu'ils s'occupent des patients parce qu'ils sont obligés. Hein. On est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, à l'hôpital, le droit de grève, c'est toujours très compliqué. Mais la grève administrative, c'est-à-dire qu'ils ne font plus la cotation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de facturation des actes de la radio. Et la direction, face à ça, encore une fois, qu'est-ce qu'ils font ? Plutôt que de satisfaire les revendications qui sont plus que légitimes du personnel, eh ben, ils laissent faire. Là, on estime à quasiment 1 million d'euros la perte financière pour l'hôpital du fait de ces non-facturations. Donc, embaucher le personnel demandé par le service de radiologie aujourd'hui, ça coûterait quand même bien moins que ça. Mais la direction, plutôt que de céder cette revendication, plutôt que de avouer sa faiblesse en vérité et surtout ne pas montrer que la lutte, ça peut payer, ben, pour l'instant, ils font la sourde oreille. Donc, le personnel continue fortement à se mobiliser. Au niveau des usagers, on a en train d'essayer de faire le lien entre personnel et usager parce que la dernière nouveauté de la direction, c'est que les parkings de l'hôpital Purpan vont devenir payants. Payants non seulement pour les visiteurs, mais également pour les patients. C'est-à-dire que les gens qui seront hospitalisés, qui seront vus en voiture, ils devront payer. Alors, à un tarif préférentiel, on nous a dit, hein, ce sera moins cher, hein, mais ce qui est tout bonnement scandaleux. Il y a également la vente de l'ICR en centre-ville. C'est la perte des soins de proximité. Donc, tous ces éléments-là, on est en train d'essayer avec différents collectifs, hein, collectifs de défense de l'hôpital public, ACT UP, des organisations syndicales, politiques, associatives, de faire un peu le lien pour voir qu'est-ce qu'on peut organiser ensemble. Et il y aura au niveau régional une mobilisation le 24 janvier.
D'accord. Du coup, les gens se regroupent parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu des mobilisations comme ça par service et que c'est compliqué. Ce qu'on nous expliquait aussi Christine et Julien la dernière fois, que c'était compliqué de se parler entre collègues de service à service, qu'on se croisait, qu'on avait du mal à communiquer ensemble et que du coup la mobilisation sur un plan plus global était dure à mettre en place, quoi.
C'est sûr que c'est difficile parce qu'en plus, le fait qu'à l'hôpital, hein, je me répète, hein, mais le fait que le droit de grève, ce soit quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui parce qu'on se fait assigner, y a un effectif minimum. Mais comme on est en sous-effectif, tout le monde est assigné en vérité. Faire le lien avec les collègues d'autres services, ça veut dire pouvoir se déplacer, ça veut dire avoir des temps de discussion ensemble pour savoir comment on s'organise, comment on fait. Et c'est sûr que c'est des éléments qui sont pas évidents. Donc nous, au niveau syndical, on fait le lien, mais ça suffit pas. Et c'est pour ça que la mobilisation, hein, qui avait eu lieu le 8 novembre, c'était quelque chose de très important parce que pour la première fois depuis des années et des années, les gens se retrouvaient ensemble. Parce qu'il y a le lien entre les services au sein de l'hôpital, mais il y a aussi le lien avec le secteur privé. Parce qu'il y a une grosse grève quand même dans notre région en ce moment, c'est la clinique de Lormeaux à Tarbes, hein, qui en sont, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 60 jours, hein, c'est la plus grande grève, la plus longue grève dans le secteur médical privé en France. Qui n'a jamais eu lieu. Donc bon, il faut aussi faire le lien parce que c'est pas parce qu'ils sont dans le privé qu'on n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes droits. Et c'est ensemble qu'on doit bagarrer parce que ce qui reste le lien commun entre nous tous, c'est que la santé, ça doit pas être quelque chose qui rapporte. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que on cherche à nous faire croire que faut faire des économies parce que ça coûte trop cher. Mais bien évidemment que ça coûte cher, la santé, c'est sûr. Soigner les gens, c'est pas une activité qui doit être rentable. Et après, ça coûte cher, mais il faut aussi relativiser parce que quand on parle de trous de la sécu, de déficit des hôpitaux, comparé au montant annuel de l'évasion fiscale en France, on en est quand même bien bien loin.
Ouais, on en parlait la semaine dernière. D'ailleurs, il y a un procès qui s'ouvre à Dax aujourd'hui sur les questions d'évasion fiscale. C'est pour faire une petite parenthèse. Écoute, merci Pauline. Tu nous dis que du coup, la prochaine mobilisation, ce sera le 24 janvier.
Voilà, tout à fait. On n'a pas encore tout déterminé sur l'heure et le lieu exact à Toulon, mais ce sera une manif, voilà, une manif régionale, et il y aura une manifestation nationale le 7 mars. Bon, tout ça, c'est un peu tard, donc on va essayer d'ici là quand même de rythmer, parce que notamment à l'approche hein, quand même des élections présidentielles, c'est assez rigolo d'entendre des discours qui changent comme ceux de Valls ou de Touraine. Donc, faudrait quand même leur rappeler que c'est eux qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Quoi. Ouais, c'est ça. Tout d'un coup, tout le monde est à l'écoute.
Et veut c'est bien... ça. Tout ouais, d'un coup, super. Le 49.3, c'est pas bien. On va donner de l'argent à l'éducation et la santé.
Très bien. Eh bien, écoute, on te remercie. On vous souhaite bon courage pour la suite.
Eh bien, merci.
Et
merci
puis,
à vous.
À bientôt.
Au revoir.
C'était Sharon Jones on the Dap Kings, 100 Days, 100 Nights. Et Sharon Jones, superbe diva soul qui est décédée en novembre dernier, voilà. On fait un petit hommage rétroactif. Rip.
Et bah, le magazine, c'est terminé, j'ai l'impression.
C'est terminé, mais on revient demain. Hein. Écoute,
comme, on va pas pleurer tout de suite.
Comme d'habitude. Demain, on parlera bande dessinée d'ailleurs dans le magazine. Ouais. C'est pas si souvent à la radio. C'est pas le plus évident, faut dire.
Non.
On recevra deux dessinateurs, auteurs de bande dessinée, Alexandre Gérodi et Léo-Louis Honoré. Ils sont toulousains. Ils font partie du collectif Les Machines et ils ont sorti également des albums aux éditions FLBLB.
Bleu.
Voilà, on pourra s'amuser demain à essayer de prononcer le nom de cet éditeur indépendant de Poitiers. Voilà, tout ça c'est demain dans le mag à midi sur Canal Sud toujours.
Et peut-être qu'on essaiera de mettre une ou deux bonnes feuilles sur le site avec le podcast.
Ouais, ouais, c'est vrai, histoire que vous ayez aussi le visuel en plus.
Et pour cet après-midi, bah là, on va s'écouter Black Connection, la rediffusion de l'émission de la semaine dernière. Ça sera suivi par les bébés dinosaures. À 18h, on attend peut-être les copains de l'herbe tendre, mais on n'a pas de nouvelles.
Alors, bah c'est ça, c'est, d'habitude, c'est le premier lundi du mois.
Mais bon, le premier lundi du mois, c'était le 2 janvier.
Voilà, alors est-ce qu'ils ont annulé ou est-ce qu'ils ont décalé? Ce sera la surprise à 18h.
Donc écoutez, à 18h, on verra. À 19h, pas de bras zéro. Aujourd'hui.
Ah bon, qu'est-ce qui se passe?
Moi, bon, c'est vacances prolongées, je crois, j'ai l'impression.
D'accord.
On commence 2017 tranquillement. Donc, le premier bras zéro de l'année, ce sera la semaine prochaine. À 20h, Esperanto Magazino. À 21h, Scream for Me Toulouse.
Ouais, ça, c'est l'émission de métal hein, ouais. De Canal Sud.
Et on finit à 22h avec Anexia ou Douche Froide, je ne sais pas cette semaine. Qu'est-ce que.
Bah écoutez, vous allez.
Faudra écouter.
Rester à l'écoute.
Émission surprise. Et puis, on vous laisse avec. Black Connection.
Allez, portez-vous bien, salut.
Salut, bon lundi.